Ce matin, on a chanté sur le Saint-Esprit et ça donne bien parce que le message que je vais aborder avec vous porte sur le Saint-Esprit. Et vous voyez déjà le titre à l'écran, c'est « Jamais seul ». C'est la promesse du Consolateur. La promesse du Consolateur, c'est une promesse que Jésus a faite. Regardons un peu le premier texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le contexte de ce message est assez particulier. On retrouve ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Et si vous êtes habitué un peu de lire l'Évangile de Jean, vous apercevez que ça commence au chapitre 14, 15, 16, 17 et Jésus fait souvent allusion au Saint-Esprit. Et cela prend place juste avant la crucifixion. Donc, dans les 15 premiers versets même de ce chapitre 14, on remarque que Jésus parle à ses disciples avec une certaine sensibilité, une certaine tendresse, une préoccupation pour eux, parce qu'ils sont troublés, il les sait troublés, ils sont troublés à l'idée de le voir partir. Vous connaissez un peu l'histoire de comment Jésus a recruté ses disciples. Ils ont tout quitté, ils l'ont suivi, ils ont vécu 3 ans et demi extraordinaires d'expérience. Pierre et Jean-Jacques en particulier ont vécu plein de situations très, très personnalisées. La transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïrus et tout ça. Mais pour comprendre, et Jésus va leur dire au verset 1 de ce chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans une version plus moderne, on pourrait dire que votre cœur ne vous trouble point, ne soyez pas anxieux, n'ayez pas peur, faites-moi confiance et faites confiance à Dieu. C'est ça le sens de ce texte-là. Donc, Jésus sait qu'ils sont troublés. Maintenant, pourquoi ils sont troublés? Et pour comprendre encore davantage, plus en profondeur, il faut retourner un petit peu dans d'autres évangiles pour revoir vraiment le contexte. Dans Marc chapitre 8, verset 31, Jésus s'exprime ainsi. Le texte mentionne ceci. « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, par les religieux de l'époque, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Donc, ça, c'est la séquence qui prend place. Et si vous vous rappelez du texte, en réaction à ce que Jésus dit, qu'il va être trahi, il va devoir souffrir, il va avoir à mourir. Pierre le prend à part un peu en catimini, un peu comme ça. Il dit, excuse-moi Seigneur, mais ça n'arrivera pas. Le texte littéralement dit, mais lui se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant, va arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Maintenant, Pierre n'était pas possédé, c'est juste que ses pensées étaient vraiment contraires à ce que Dieu, au plan de Dieu. Vous savez, c'est agréable de parler de Jésus quand tout va bien. C'est agréable d'avoir une représentation de Jésus comme un peu l'image d'un super-héros Marvel, OK? D'avoir celui qui est tout-puissant, qui fait toutes les choses et tout ça. C'est agréable, tout ça. Miracle, guérison, délivrance et tout ça, c'est le bel aspect de Jésus. Alors, les disciples ont grandi, ont évolué avec Jésus à travers de cette dimension-là. Puis là, tout d'un coup, Jésus leur annonce que ça va mal se finir, en tout cas, ça va mal se finir. Pas mal pour eux dans le sens que c'est la mort, c'est la crucifixion, c'est la souffrance et tout ça. Mais vous devez garder à l'esprit que fondamentalement, Jésus n'est pas venu pour ça. Okay? Jésus n'est pas venu uniquement pour faire des miracles. Bien sûr, il est venu pour toucher le cœur de l'humain, mais fondamentalement, sa destination finale sur Terre, vous savez ce que c'était? La croix. Puis parfois, on oublie cela parce que, encore une fois, c'est agréable d'avoir un Jésus vainqueur, mais on oublie parfois que Jésus aussi est un Jésus souffrant, qui va souffrir. Vous savez, non seulement Jésus va souffrir, bien sûr, il va souffrir l'agonie, tout ça, la crucifixion, la trahison, l'agonie à la fois émotionnelle, spirituelle, physique aussi, parce qu'avec la crucifixion, mais aussi, j'aimerais vous rappeler aussi que le Dieu que l'on sert, c'est aussi un Dieu qui souffre. Le Dieu qui souffre, oui, parce que Dieu a des émotions. Un Dieu qui souffre de voir l'humanité dans l'état dans lequel est l'humanité. Si Dieu est un Dieu d'amour, et vous le savez, parce que comme parents, on vit la même chose, si nous aimons nos enfants, vous savez que nous souffrons. Nous souffrons des décisions qu'ils vont prendre. Pensez, quand vos enfants étaient tout petits, le premier jour à l'école, comment votre cœur, surtout les mamans, étaient angoissées à l'idée qu'est-ce qui s'en va dans ce monde cruel et difficile. en fin de compte, parce qu'on aime, parce qu'on a, on a un attachement envers eux, qu'on réagit de cette façon-là, qu'on éprouve ce genre d'émotion. Alors, Dieu éprouve cela. Voilà pourquoi que la motivation de Dieu a été d'envoyer Jésus sur terre, justement pour soulager l'humanité de ses maux, pour sauver l'humanité. Donc, ici, c'est un peu la même dimension, et les disciples n'arrivent pas à comprendre. C'est inconcevable pour eux que tout ce qu'ils ont vécu va s'arrêter. OK? The show must go on. Il faut que ça continue à quelque part. Il faut. C'est une espèce de. Je vais prendre le mot, mais je ne le dirai pas dans le sens péjoratif. Là. C'est une espèce de trip spirituel fascinant. OK? Mais encore une fois, c'est pas négatif ce que je dis. Mais la seule idée de penser que tout ça va se terminer, que Jésus va mourir, mais non, non, non. Ça va être leur réaction, et c'est la réaction de Pierre. On appelle ça je l'appelle ça le grand déni. Mais en fait, c'est un déni. Puis, laisse-moi vous expliquer c'est quoi un déni. Le déni, denial en anglais, ou la négation, c'est un mécanisme à l'intérieur que quand la nouvelle est trop grosse, est énorme, puis trop douloureuse, est invraisemblable, on la renie, on la refuse. Par exemple, vous êtes à la maison, vous recevez un coup de fil de quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis on vous annonce qu'il est arrivé un accident et tout ça, puis vous allez dire non, t'es pas sérieux, non, je te crois pas. Ce sont des mécanismes intérieurs comme pour se protéger de toute la désorganisation qu'on vivrait, là, déstabilisée par le fait que la nouvelle est énorme. Puis c'est un peu ce qui se passe ici avec eux, avec les apôtres. Ils sont capables de comprendre, ils ont dû évoluer parce qu'ils ont dû comprendre un petit peu, fascinés par les miracles qui étaient presque invraisemblables. Mais le déni était là pour la mort, pour la fin de toute chose. Il va être là pour la résurrection. Parce que rappelez-vous de la résurrection, ils n'ont pas cru non plus. C'était trop invraisemblable. C'est énorme. C'est pour des humains, là, de vivre tout ça, c'est juste un peu trop. Donc, Jésus, ça, c'est le contexte. Et là, Jésus, voyant qu'ils sont troublés, leur dit que votre cœur ne se trouble point. Écoutez, paniquez pas, les boys. OK? Faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Et là, Jésus va leur annoncer qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Alors, ça m'a amené à une certaine question. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi il envoie le Saint-Esprit? Il a fait le travail, il a ressuscité les morts, il est monté au ciel, il a tout fait les promesses inimaginables. Et je vais vous proposer, il y a plein de réponses possibles, mais je vais vous en proposer trois ce matin. Ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, OK. La première raison, c'est une promesse d'amour. Une promesse d'amour. Le premier lien que Dieu a avec nous, c'est un lien d'amour. La première préoccupation de Dieu envers nous, c'est une préoccupation d'un Dieu qui aime cette humanité et qui aime ses enfants et qui nous aime. Jésus dira, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Je répète, « Je prierai le Père, je demande à mon Père, il enverra un autre consolateur. » C'est un autre consolateur. Donc, Jésus ne les abandonne pas. En annonçant son départ, il prépare ses disciples à quelque chose d'autre. Il met la table pour quelque chose d'autre. Une autre forme de relation, mais non plus physique, dans le sens de marcher avec lui, de vivre avec lui, de manger avec lui, non plus physique, mais quelque chose de spirituel, mais pas quelque chose d'inférieur, quelque chose de supérieur à ce qu'ils ont vécu dans les limites du côté physique. Le Saint-Esprit, en fait, c'est le prolongement de l'œuvre de Jésus. C'est de sa présence aimante, mais dans une dimension différente, dans un ordre différent, tout ça donné par le Père. C'est par amour que Jésus fait cette promesse. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous, il parle de quoi? Du second retour de Jésus? Non, je viendrai à vous sous une autre forme, sous une autre dimension. Dans Jean 14, 16, lorsque Jésus parle d'envoyer un autre consolateur, OK? Il y a un jeu de mots en grec qu'on ne voit pas en français. Parce que le mot grec, la portion de la phrase qui est en grec, dit ceci. Ça signifie que Jésus était le premier consolateur et que celui qui va envoyer, c'est un autre tout comme lui. Autrement dit, je vais vous envoyer un autre moi-même. Un autre comme moi, le prolongement de moi ou la suite de moi ou la poursuite de moi. Quelque chose qui va se poursuivre dans le temps. Le premier consolateur, c'était Jésus et l'autre qui va venir, il fait allusion au Saint-Esprit qui sera le second consolateur. Et ce second consolateur, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose de diffuse. Le Saint-Esprit. C'est quelque chose de personnalisé. Vous allez voir dans quelques instants, juste par la définition de ce que fait le Saint-Esprit, de sa nature propre, il va changer quelque chose dans nos vies. C'est une personne divine bien réelle. Vous et moi partageons quelque chose en commun. Nous sommes des pentecôtistes. Moi, j'ai grandi dans la bonne vieille Pentecôte dans les années 70. Là. Et à l'époque, c'était intense, c'était particulier, il se passait des choses. Je caricaturais un petit peu hier avec ceux qui étaient là. Très, très souvent, on savait quand la réunion commençait, mais on ne savait pas quand elle finissait. C'est intense, c'est parfois extatique même, OK? Je me souviens une fois, il y a un appel en avant, je ne sais plus qui était le prédicateur, je pense que c'était un Américain qui était là, à ma petite église à Drummondville. Je pense même que c'était dans le temps du pasteur Whitaker que vous avez eu ici, là. Parce que ça a été mon premier pasteur. Et il y a une délivrance en avant et tout ça. Puis là, le bruit court que le démon va sortir de la personne et qu'il cherche où il va rentrer encore. Tout le monde était comme ça en train de prier. T'es convaincu. Non, pas moi, pas moi, pas moi. C'est caricatural. C'était intense. Jusqu'à un certain point, c'était beau. J'en garde un excellent souvenir. Mais la théologie, parfois, est un peu déficiente. On savait, difficile à cerner. Et c'est ça le problème avec le Saint-Esprit. C'est encore le cas de nos jours. C'est difficile à cerner, à compter qu'est-ce qui est de l'ordre du Saint-Esprit ou qu'est-ce qui est de l'ordre des émotions ou de tout ce que les gens peuvent vivre à quelque part. Mais je vais vous ramener à quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit, en fait, fondamentalement, c'est notre conseiller personnel. C'est le conseiller personnel du croyant. Il est venu poursuivre l'œuvre de Christ. Donc, pour comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire et doit faire et veut faire et fera, vous devez vous ramener à Jésus. Il ne fera pas quelque chose de contraire à ce que Jésus est ou à ce que Jésus fait. Parce que fondamentalement, c'est l'Esprit de Jésus aussi. Okay? Donc, à cause de la confusion parfois qui existe de nos jours, puisque toutes sortes de mouvements partout à travers la terre, on perd de vue le rôle et la fonction du Saint-Esprit dans notre vie, dans ces temps modernes. Le Saint-Esprit met en évidence la personne de Jésus. Le Saint-Esprit met en évidence la personne de Jésus. Donc, si parfois vous entendez parler de trucs, de réunions un peu particulières quelque part, au lieu de vous déstabiliser, revenez juste à Jésus. Approchez-vous de Jésus. Dites, Seigneur Jésus, c'est toi. Je vais aller un peu plus loin. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera, quoi? Tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, ça c'est ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, c'est le matériel avec lequel le Saint-Esprit va travailler dans nos vies. Donc, le travail du Saint-Esprit, il est uni en ce qu'il consiste à appliquer les bénéfices que Jésus a acquis par son œuvre de rédemption, par l'œuvre de la croix, dans la vie du chrétien. Il est l'exécutant efficace de ce que Christ a accompli pour nous. Regardez-moi ça un instant pour mieux comprendre. L'œuvre de Jésus, elle est terminée. Elle s'est terminée il y a 2000 ans. Jésus a fait le travail, il est venu sur terre de façon miraculeuse par sa naissance avec Marie et tout ça, on connaît l'histoire. Il a fait ses miracles, il a fait son travail, il a terminé sur la croix, il a porté les péchés du monde, il a ressuscité, il est monté au ciel. Son travail est fini, sa mission, elle est terminée. Elle est terminée dans la personne de Jésus, mais n'est pas terminée dans le plan de Dieu pour l'humanité, parce que c'est le Saint-Esprit qui reprend la suite. Et il reprend la suite et c'est encore plus fascinant parce qu'il va rendre accessible pour chacun de nous tout ce que Jésus a acquis comme bénédiction grâce à la croix. À cause du Saint-Esprit, l'œuvre n'est plus limitée à un groupe restreint de personnes, les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, la foule de l'époque, mais à tous ceux qui désirent ardemment. Donc, c'est une multiplication de l'activité de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, et j'aime beaucoup ça, que le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu en liberté. Comprenez-vous? Il n'est pas limité. Jésus était limité. Hein? Dans un corps, il ne peut pas être à deux places en même temps. Là. Imaginez qu'on n'est pas dans Star Trek où il se déplace. Okay? La réalité, c'est qu'il est limité par sa dimension physique. Il est limité, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Mais le Saint-Esprit, réfléchissez à ça juste en ce moment, en ce dimanche matin, le Saint-Esprit est en train d'agir partout à travers la planète, dans toutes les langues inimaginables. Il est ici à Edmonton, il est au Québec, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est en Afghanistan, il est en Ukraine, il est en Russie, il est partout en train de convaincre des gens et tout ça. C'est non seulement en ce moment, mais c'est comme ça depuis 2000 ans. De tout temps, de toute époque, de toute culture, de tout lieu, il est en train d'agir simultanément. En ce moment, dans cette salle, il est en train de vous parler. Il me parle, moi, pendant que je prêche. J'ai des téléchargements qui s'en viennent dans ma tête. Et chacun de vous, et non seulement c'est universel, c'est large, c'est la liberté totale, mais c'est personnalisé. Parce qu'il connaît notre vie et notre cœur. Donc, dans l'œuvre de guérison de l'humanité, tous les membres de la Trinité y participent. Dieu, dans son amour pour l'humanité, avant la fondation du monde, a préparé le plan originel. Regardez-moi ça un instant. Parfois, vous vous dites, sûrement que vous vous dites ça, ou certains d'entre vous vous dites ça, dans le livre de Genèse, là, au chapitre 3, quand Adam et Ève succombent à la tentation, est-ce que Dieu avait prévu ça? Ou à quelque part, Dieu était couché sur son nuage au ciel, avec des petits anges, des petits ailes en or, puis là, tout d'un coup, il y a un système d'alarme céleste qui est parti, bam, 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 il est arrivé un drame, Adam et Ève, ceux que j'avais envoyés, ils ont échoué, ils sont tombés dans le péché, là, le diable, puis là, Dieu se réveille, je vais faire quoi? Puis il cherche une façon de réagir. Pensez pas comme ça. Il avait déjà prévu que les choses. Okay? Si Dieu est Dieu, son intelligence, elle est autrement supérieure à notre façon à nous de concevoir. Et pour là, pourquoi on va parler de Jésus comme étant le second Adam. Okay? Dieu avait une autre carte dans sa poche arrière, c'était la personne de Jésus. Okay? Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait préparé le plan originel. Le Fils l'a mis en exécution il y a 2000 ans et le Saint-Esprit l'applique dans la vie du croyant ici et maintenant. On va entendre un petit amen. On a un thème en français pour cela. On appelle ça actualiser. Actualiser, on l'entend de plus en plus de nos jours, mais les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire actualiser. Actualiser, ça veut dire prendre quelque chose de virtuel ou d'imaginaire, c'est-à-dire qui n'existe que dans la conception, et le rendre réel dans la réalité. C'est ça l'actualisation. Okay? Donc, c'est comme la manifestation visible de ça, c'est comme l'application visible de ça, c'est comme la matérialisation de tout cela. Dans un seul mot, le Père a planifié, le Fils a exécuté et le Saint-Esprit l'accomplit dans ma vie ici et maintenant. Deuxième chose pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit, parce que c'est une présence intérieure. Il demeurera avec vous, nous l'avons lu dans le premier texte ce matin, il sera en vous. Ce que Jésus annonce à ses disciples, et révolutionnaire. Je veux que vous en preniez conscience, même si ces notions-là ne sont pas inconnues pour vous. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on sait, c'est que l'Esprit venait parfois sur une personne. Pensons à Samson, pensons à David, le Saint-Esprit saisi, pensons à Élie, le prophète et tout ça. Mais Jésus parle d'un changement radical ici. L'Esprit ne viendra pas sur vous, il va venir en vous. Non seulement sur vous, mais en vous. Il vivra en vous. C'est une présence permanente. Il ne rentre pas, puis il sort pas, puis il rentre. Il est là en permanence, fidèle, inconditionnel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un invité passager. C'est quelqu'un qui reste, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes, malgré nos rechutes, parfois, le Saint-Esprit demeure là. Il ne nous lâche pas, parce que c'est la promesse de Jésus. Il ne nous abandonne pas. Il reste là, il reste en place. C'est une présence personnelle, intime, qui me connaît, qui connaît chacun de nous profondément, dans nos doutes, dans nos questionnements. Il sait ce que nous traversons dans des moments d'épreuve, quand parfois on a l'impression que le ciel est d'airain, qu'on dit « Où est Dieu quand ça va mal? » Ok, il est toujours là. Parfois, d'ailleurs, on va dire « Où est Dieu? Où es-tu Dieu? » En fait, Dieu, il n'est pas là, là. Il est là, il est à l'intérieur de soi. Et c'est ça la force de la présence. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au début de ma vie chrétienne. J'avais 20 ans, à peu près une année après ma conversion. J'arrive à l'église le dimanche matin, puis comme vous avez fait ce matin, on se salue, on discute un tout petit peu avant la réunion et tout cela. Et l'église où j'étais, c'est l'église de Pentecôte à Drummondville, il y avait comme un hall d'entrée, c'est-à-dire comme si derrière la pièce était fermée, les gens sont derrière, les portes sont derrière, et après ça, on ouvre des portes, puis on rentre dans la salle de culte dans l'église. Et j'étais derrière comme ça, et je discutais avec des frères. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une blague avec qui j'étais en discussion. Puis tout d'un coup, je me mets à rire, mais un peu trop fort. OK? C'était drôle. J'étais heureux. Puis c'était beau. J'étais à l'église ce matin-là. Il y a une dame qui ouvre les portes, qui sort. Puis elle me pointe avec son doigt en forme de poignard. Puis elle me dit, « Jeune homme, vous déshonorez la maison de Dieu. » Autant que j'étais en mode expansif, autant que je suis rentré dans ma coquille comme une nuit. OK? Ça m'avait blessé, mais je me suis tué, puis je suis rentré dans l'église, puis j'ai pas. Mais au fil du temps, je me suis mis à réfléchir. J'ai compris vraiment, là, et je vous le dis ce matin, ce jour-là, cette dame a commis trois erreurs majeures. La première erreur, c'est qu'elle a manqué de diplomatie. On ne traite pas les gens comme cela. On ne les repent pas publiquement comme ça. On ne les humilie pas publiquement comme ça. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas du savoir-vivre. Sous prétexte d'une certaine sainteté, une certaine défense. On était dans la religion. La dame là, qui pense que l'Église, c'est quelque chose de sacré dans ce sens-là. Je reviens, bougez pas, je reviens. La deuxième erreur qu'elle avait faite, c'est si elle avait su qui j'étais, d'où je venais, comment j'avais été malheureux, mais malheureux toute mon adolescence, elle se serait réjouie et elle disait « Wow, ce garçon, il était mort, mais il est revenu à la vie. » Vous êtes d'accord avec moi que les morts ne rient pas beaucoup. C'est l'apanage de gens qui sont heureux qu'il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur d'eux. Et la troisième erreur qu'elle a faite, c'est une erreur théologique. Je n'étais pas dans la maison de Dieu, j'étais la maison de Dieu. Bougez pas. Dieu, la Bible dit, n'habite pas dans des habitations faites, dans des maisons faites de main, dans Actes chapitre 7, verset 48. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et qui est en vous, qui est en vous, et que nous avons reçu de Dieu, qu'on ne s'appartient point maintenant. Alors, la réalité est la suivante, c'est que souvent on va, puis là, bénis Dieu pour les bâtiments, là, OK? Puis croyez-moi, vous avez beaux bâtiments, mais je veux vous dire qu'il y en a des plus beaux en Europe, les grandes cathédrales, Notre-Dame de Paris, c'est fascinant quand même. Okay, on est... Ceci étant dit, c'est un lieu de culte. Je pense qu'il faut respecter, on ne rentre pas chez McDo mal habillé avec un chien, ça ne se fait pas. McDo, c'est McDo, bon, OK. Je sais qu'il y a des principes dans une église, mais la tendance parfois, c'est de sacraliser quelque chose qui ne l'est pas. Jésus n'a jamais voulu qu'on lui bâtisse des cathédrales. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de se bâtir un peuple. Je l'ai mentionné hier, ce bâtiment, si beau soit-il, puis il est vraiment beau, vraiment, vous avez une belle église, ça ne change pas des vies, ça. Okay? Demain, vous quittez ici, toute l'œuvre meurt, le bâtiment reste là, mais il ne donne plus la vie à personne. Okay? Vous savez qu'au Québec, en particulier avec toutes les églises catholiques qui ferment, il y a un phénomène qu'on appelle désacraliser l'Église. Avant que le théâtre l'achète, ou le bar l'achète, ou le open space l'achète, OK? Il faut que le curé vienne désacraliser. Okay? Donc, c'est dans nos mœurs, c'est dans notre culture, un point qu'il faut à un moment donné que la parole de Dieu vienne un peu modifier ça dans notre conception des choses. Okay? C'est un bâtiment qui sert à nous réunir parce que on est protégé du froid, de la pluie, de la neige l'hiver. Et c'est bien comme ça, il faut le respecter, mais ça s'arrête là. Parce que le Saint-Esprit, fondamentalement, n'habite pas dans un bâtiment, il habite dans des personnes, vous et moi. Le mot consolateur, que l'on retrouve dans Jean chapitre 14, 15, 16, 17, et même dans la première épître de Jean chapitre 2, c'est un thème intéressant. C'est le thème grec parakletos. J'en ai parlé un tout petit peu hier, parce que j'ai parlé du mot consoler durant ce samedi. Parakletos veut dire para près de et kaleo veut dire à côté de. Donc, c'est quelqu'un qui est à mes côtés pour m'aider, pour me secourir, pour me consoler, pour me réconforter. En fait, le Saint-Esprit, là, pour vous revoir ça différemment, c'est mon conseiller, c'est mon aidant, c'est mon défenseur, c'est mon assistant, c'est mon conducteur, c'est mon allié, c'est mon soutien, c'est mon intercepteur. Ça, exprime en moi, si vous savez, par des souvenirs exprimant ce besoin de prier parfois, vous sentez ça à l'intérieur de vous. C'est aussi mon avocat. Mais ce n'est pas le procureur de la couronne. C'est l'avocat de la défense. Pourquoi je dis avocat? Parce que dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, ça dit « Nous avons un avocat auprès du Père », le mot « avocat » que là, c'est « parakletos ». Le procureur cherche à nous condamner, mais l'avocat de la défense cherche à nous défendre. Alors, parfois, quand vous êtes torturé, faites une gaffe, une erreur, un péché quelconque, vous dites, je me sens tellement coupable, j'ai l'impression que Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous défendre. Il n'est pas l'accusateur des enfants de Dieu. Okay? Il est là pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous libérer, pour nous transformer, tout ça. Il console quand nous sommes brisés. Nous avons un consolateur tout près de nous. Et vous savez quoi? Parfois, la seule chose que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est de le consoler. Quand on perd un être cher, vous savez... Parfois, c'est fini, c'est terminé. Mais on oublie que Dieu est un Dieu consolateur, un grand consolateur. Alors, on voit ça dans le premier chapitre du second épître de Paul aux Corinthiens. Afin qu'il puisse nous consoler dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler les uns les autres aussi. Ceux qui sont abattus. Hein. Ça, c'est le consolateur. Quelqu'un qui se tient à côté de nous. Et moi, je vais en parler dans quelques instants aussi. Je crois que l'Église locale doit développer tout ce travail d'être près des gens, à côté d'eux, appeler les uns auprès des autres, pour pouvoir prendre soin les uns des autres, se consoler. Vous savez comment j'appelle le Saint-Esprit? Vous allez vous en rappeler à partir d'aujourd'hui. Je l'appelle le ministre de l'Intérieur. Une belle image, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des affaires internes qui se passent ici. OK? Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Donc, raccrochez-vous à cette idée que lorsque ça va mal, lorsque vous êtes éprouvé, lorsque il arrive quelque chose, okay, le Saint-Esprit est là, tout près de vous. Dieu l'a appointé dans cette perspective précise, celle de prendre soin de vous consoler, de vous guider, de vous diriger. Le consolateur, c'est Dieu à portée de ton cœur. Troisième chose, le consolateur ou ce Saint-Esprit, Jésus nous l'a envoyé non seulement comme une promesse d'amour, comme étant aussi une présence intérieure, mais aussi, troisièmement, comme une puissance de transformation. J'en ai fait un peu allusion aussi hier. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'œuvre de Christ à la croix, c'est super. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, tout est centré là-dessus, c'est le centre névralgique du christianisme. Ça nous assure la réconciliation avec Dieu, nous a fait la paix avec nous par l'œuvre de Christ à la croix. Mais cette réconciliation, si belle soit-elle, ne réussit pas à nous transformer. Ça nous réconcilie, ok, on est en paix avec Dieu, Dieu maintenant est avec nous. Je pense que mon micro coupe. Est-ce que tu veux que je prenne autre chose? Ou... Okay. Donc, l'œuvre de Christ. C'est bon. Vous savez, ça, c'est le genre de problème que n'avait pas l'apôtre Paul. Écoutez. Entre ça et les problèmes que lui avait, la lapidation, la prison, je me mets mon problème de micro. Je disais donc que l'œuvre de Christ à la croix nous assure la réconciliation avec Dieu, mais n'assure pas notre transformation. Pour que le travail se fasse à l'intérieur de nous, Dieu devait penser un plan précis. Le travail précis s'opérait profondément dans l'œuvre de l'homme. Et ce qu'on sait, je le sais moi par mon travail, par la spécificité de mon ministère, c'est que le changement chez l'être humain procède de l'intérieur vers l'extérieur, non pas de l'extérieur vers l'intérieur. On peut mouler les gens quelque part. Vous pouvez mettre un voleur en prison, il va arrêter de voler dans sa cellule. Mais ouvrez la porte de la cellule, ça recommence, OK? Parce qu'il n'y a rien de changé à l'intérieur de soi. Or, Dieu voulait s'assurer que la pleine transformation de l'homme, et moi, je crois, je vous le dis, je le répète à toutes les tribunes inimaginables, que l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne humaine. Dieu fait des gens pécheurs, brisés par la vie, par les épreuves, par les circonstances, puis en fait des hommes nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux. C'est ça le sens du travail du Saint-Esprit. C'est une reconstruction intérieure qui s'opère. Vous savez, vous connaissez votre histoire, votre passé. Il renouvelle notre intelligence, il purifie notre cœur, change nos façons de penser, façonne, moule notre caractère. Il travaille en profondeur pour guérir, rétablir ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Il redresse même ce qui est tordu à l'intérieur de nous. Il fait naître en nous une vie nouvelle. OK? Une vie nouvelle. Est-ce que je peux vous poser une question? Quels sont ceux qui croient que Jésus peut changer une vie? OK. Maintenant, écoutez bien, je m'attendais à ce que vous l'aviez à la main. Hein. Vous n'êtes pas surpris, ma femme a souri en coin parce qu'elle connaît ma stratégie là-dedans. Sans vous décourager, je ne crois pas que Jésus change des vies. Bien sûr, Sylvie, tu as bien fait de m'inviter. Suivez-moi bien avant de me lancer des tomates. Suivez-moi bien. Jésus ne change pas des vies, il change des personnes. Et quand les personnes se mettent à changer, qu'est-ce qui se passe? Sa vie se met à changer. Dites, oh! C'est la même chose? Pas tout à fait. Parce qu'on s'attend toujours à ce que le changement prenne place à l'extérieur de nous. Okay? Seigneur, change ma vie. Mais comment il fait pour changer votre vie sans passer par vous? Il va changer la planète au complet pour vous accommoder? Non. Il va vous changer, vous, pour vous accommoder autour de la planète. Okay? Donc, à partir d'aujourd'hui, au lieu de dire, Seigneur, change ma vie, vous allez lui dire quoi? Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse, que je puisse avoir en retour ce que tu as pour moi. C'est ça le travail à faire. Dieu veut travailler en nous, et le moyen qu'il a utilisé pour travailler en nous, c'est sa présence par le Saint-Esprit en chacun de nous. Puissance de transformation. Et comment il a fait cette transformation? Je veux juste vous faire un récap bien séquencé, là, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail. C'est un enseignement incroyable de cet esprit, presque illimité. Il convainc de péché, il affranchit, il sanctifie, il régénère, il renouvelle, il communique la vie, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il répand l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il conduit dans la vérité. Il libère, il enseigne, il révèle, il donne la puissance, il incite à la prière par les soupirs inexprimables, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Il remplit, il baptise du Saint-Esprit, il donne ses dons. Wow! Jésus fait ce travail par la présence de son Esprit à l'intérieur de nous. L'Esprit de vérité nous révèle non seulement qui est réellement Dieu, mais nous révèle aussi qui nous sommes nous réellement. Et que nous aussi, nous avons besoin de cette transformation-là, et que nous pouvons devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons par sa grâce et par son action. C'est un chemin de croissance, c'est un chemin de transformation, c'est un processus parfois qui paraît être lent, un peu comme on ne voit pas une plante pousser, mais on sait que ça pousse au printemps, ça finit par pousser, mais il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. Donc parfois, on est un peu découragé, j'ai l'impression que les choses ne changent pas dans ma vie. Le Seigneur est actif, lui ne jette jamais l'éponge, ne lance jamais la serviette en disant « je n'ai plus rien à faire avec lui, je ne peux plus rien faire avec lui ». Parfois, le changement n'est pas nécessairement visible toujours en surface, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui va finir par paraître à la longue. À quoi ressemble une personne transformée? Je l'ai mentionné hier, lors de cette rencontre de couple. Elle ressemble au fruit du Saint-Esprit, au travail du Saint-Esprit. Je l'ai exprimé hier, je le répète pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là. Le fruit de l'Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est ça le fruit de l'esprit. Comme vous avez le fruit de votre travail. Vous avez fait une œuvre, vous avez bâti quelque chose, vous avez fait vous peignez, vous faites peu importe. Vous dites, ah, ça, c'est le fruit de mon travail. Donc, le fruit du travail du Saint-Esprit dans la personne humaine, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ces caractéristiques sont fascinantes parce que chaque élément devient fondamental dans la nature humaine. Vous savez, à cause de ma formation, moi, je m'interroge beaucoup, au fil des années aussi avec mes études, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain? Quels sont les besoins les plus profonds chez l'être humain? Quelle est la grande quête de l'être humain? Okay? Mais on sait que le plus grand besoin, c'est l'amour. Ah, la plus grande révélation de Dieu, c'est l'amour. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est l'amour. C'est une drôle de coïncidence, ça arrive comme ça. Hein? Donc, à quelque part, ce fruit que Dieu veut porter en nous par son Saint-Esprit, qui s'appelle l'amour, cherche à faire quelque chose. Maintenant, je vais juste prendre l'exemple de l'amour. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de situation. Arrive une dispute dans la famille avec un père et son fils. Et la mère prend le fils à part, l'adolescent à part, puis elle lui dit, écoute, faut que tu comprennes ton père. Écoute, il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas eu. Si tu avais connu le grand-père, tu comprendrais pourquoi. Et quand on dit ça, on va dire qu'il n'est pas capable d'aimer bien, parce qu'il n'a pas été aimé et tout ça. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion, n'est-ce pas? Maintenant, cela est vrai, c'est vous jusqu'à quand? Jusqu'au moment où quelqu'un devient chrétien. Parce qu'après ça, les choses vont commencer à changer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va me remplir de l'amour de Dieu. Cet amour-là va me transformer. Il va m'en être capable à nouveau de porter le fruit de l'amour, c'est-à-dire de commencer à aimer. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, c'est un œuvre comme ça. Donc, vous savez, l'image d'un christianisme où on va tout à l'église, où on est un petit peu religieux, ce n'est pas une image biblique. L'image du christianisme, des chrétiens, des croyants, c'est des gens qui portent du fruit et que le fruit, il est visible parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça devient visible. J'en ai parlé hier de cela. La réalité, c'est que les gens ont besoin de voir à quoi ressemble un chrétien. Ils ont plus besoin de voir que de nous entendre. Le consolateur, le Saint-Esprit, c'est aussi le transformateur, celui qui fait cette œuvre de transformation. Et c'est ça l'appel qui est important pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ce matin, vous avez entendu parler du Saint-Esprit. Nous en avons parlé ensemble. Une promesse d'amour, parce que Dieu nous aime, il ne veut pas nous abandonner. Déjà, ça paraît suffisant, le fait d'avoir la sécurité, de savoir qu'on n'est jamais seul. C'est aussi une présence intérieure. Il est là, à l'intérieur de moi. Il marche avec moi, partout où je vais, quand je dors, quand je m'éveille, quand je travaille. Une présence constante, fidèle, personnalisée, intime, qui ne me quitte jamais. On avait aussi une puissance de transformation, c'est-à-dire cette œuvre qui change les cœurs, renouvelle les pensées, transforme ma vie. Elle est possible dans ma transformation personnelle. Jésus avait bel et bien dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et comment il est venu à nous? Comment il vient à nous? Il vient à nous par la présence de son Saint-Esprit. Donc, c'est un appel pour vous et pour moi ce matin. De lui faire confiance, peu importe ce que nous vivons. Ce qu'on peut dire amène à cela, est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à vos places? Fermez les yeux juste quelques instants. J'aimerais vous parler juste dans un moment de recueillement. Vous savez, tout comme moi, que la vie n'est pas facile. Elle est difficile, elle est injuste parfois. Notre parcours sur Terre est fait de déboires parfois. C'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et Dieu est conscient de cela. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissés tout seuls. Mais Dieu est aussi conscient des batailles que nous livrons à l'intérieur de nous, face à nos doutes, face à nos remises en question, face à pourquoi ceci, pourquoi cela, tous les pourquoi qui peuvent nous assaillir à certains moments donnés. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je vis cela? Pourquoi ça m'est arrivé? Dieu ne nous a jamais promis que la vie serait facile, mais nous a assuré qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et parfois, on a même besoin de revoir un peu notre lecture de la Bible, mais même du Nouveau Testament, en comprenant que la souffrance, elle est inhérente à la vie. Hein? Jésus a souffert, tous les disciples ont souffert, Paul peut-être plus que tout, avec la lapidation, tout ce qu'il a vécu de trahison, de déception, tout ça, mais c'est devenu un grand apôtre, hein? L'apôtre par excellence, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament lui seul. Donc, nous avons besoin juste parfois d'éveiller notre conscience, de prendre conscience encore davantage que peu importe ce que je vis, Dieu est demeure un allié pour chacun de nous. Je n'ai pas été épargné, vous savez, par la vie. J'ai perdu mon père jeune, j'ai perdu ma mère jeune, j'ai perdu ma première femme d'un cancer, j'ai perdu un frère du cancer, un autre frère d'une mort dramatique. J'ai vécu tout ça. Mais l'assurance que j'ai et qui m'a permis de tenir, c'est de savoir l'assurance que Dieu est là et qu'il ne m'abandonne pas. Qu'il est là, il est là, il est à l'intérieur de moi. Et rappelez-vous toute cette notion de consolateur. Il se tient à mes côtés, il se tient à vos côtés. Donc, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe ce que vous vivez dans cette saison de la vie, peu importe même peut-être votre insécurité quant à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va survenir, même quand toute l'anxiété générée par toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent à travers la planète, ça ne va pas bien, la terre, elle est tourmentée de toutes parts, pour prendre une expression biblique. Mais nous avons une assurance, nous avons la confiance que nous plaçons en Dieu et en Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Seigneur, je te prie que par la présence de ton esprit en ce lieu, ici en ce moment, par la présence de ton esprit en eux, Seigneur, je prie que tu fasses une œuvre particulière en ce dimanche, Seigneur. Que leur conception de ce que tu veux faire, que leur conception de ce que le Saint-Esprit veut faire en eux puisse être renouvelée, Seigneur. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais maintenant, tout cela va aussi changer notre façon de vivre avec toi, de marcher avec toi, de mieux composer avec la vie et les revers de la vie. Seigneur, Seigneur, maintenant je peux partir, je peux sortir de ce lieu avec l'assurance que quand je quitte l'Église, je ne quitte pas Dieu. Quand je quitte l'Église, Dieu la quitte avec moi, marche avec moi. Et peu importe mes défis dans mon mariage, avec ma famille, mes enfants, ma vie personnelle et tout ça, Seigneur, tu es là, tu es là. Et c'est l'assurance que nous avons. Maintenant, ça n'aplanit pas tous les sentiers, ça n'ouvre pas toutes les portes, ça ne nous protège pas des écueils de la vie, mais ça nous assure une présence confortable. Je vais marcher, je vais continuer à marcher, peu importe ce qui arrivera, parce que j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Seigneur, fais cette œuvre en nous en ce moment. Je prie qu'au-delà de toutes ces paroles qu'ont été annoncées ce matin, qu'ont été prêchées ce matin, que tu puisses imprégner au plus profond de leur cœur ce que toi, tu juges utile et nécessaire pour leur condition et pour leur vie personnelle. Mais qu'en toute chose, Seigneur, tu sois élevé, honoré en tout. Et dans ton nom précieux, Jésus, que j'ai prié, tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen.